Aujourd'hui, j'aborde donc deux événements. Vous avez le plan, tout l'événement au temple, la présentation de Jésus au temple, et puis le recouvrement, ça veut dire de Jésus au temple, c'est-à-dire Jésus qui est retrouvé. Bon. Et à chaque fois, c'est assez intéressant, à la suite de chaque épisode, vous avez la vie cachée de Jésus à Nazareth. Bon. Alors, pourquoi on fait ça maintenant? Parce que la dernière fois, rappelez-vous, il y avait les noces de Cana, c'était le dimanche, et donc je trouvais que c'était une belle préparation pour la messe du dimanche. Voilà. Alors, je vais lire, présentation de Jésus au temple. Donc, chapitre 2, Saint-Luc, verset 22. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit enfant, Jésus, pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Voilà. Luc. Ah, si, vous l'avez, je ne l'ai pas marqué. Deux. Ah oui, oui, pardon. Oui. Luc 2, oui. Alors, y a dans cette prophétie de Siméon, c'est surtout là-dessus que je voudrais m'arrêter. J'ai mis « Dieu habite notre terre ». En fait, Siméon, alors malgré lui ou je ne sais pas trop, cite l'Ancien Testament. Et il cite en particulier le livre d'Isaïe. Au chapitre 8, verset 14, quand il dit « Cet enfant doit mener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. » Chute et relèvement d'un grand nombre en Israël. Curieusement, cette phrase, vous la retrouvez exactement en Isaïe 8, 14, à propos de Dieu. Ce qui veut dire que, en fait, Siméon attribue à Jésus une parole, eh bien, qui concerne Dieu dans l'Ancien Testament. Et donc, je comprends que celui que je vais recevoir, eh bien, il a les attributs de Dieu. À plusieurs reprises, ça se retrouve dans l'Évangile. Hein, mais c'est des notes par rapport à la divinité du Christ à entendre. Quand, par exemple, dans Saint Marc, Jésus dit Je vous précéderai en Galilée dans sa passion. Les brebis seront dispersées et le pasteur sera frappé. Ben, Jean, c'est Marc 14. Eh bien, les brebis seront dispersées et le pasteur sera frappé. C'est exactement une citation de l'Ancien Testament. Donc Jésus est en train de parler de lui et il prend des mots qui concernent Dieu dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire qu'avec Siméon, il y a vraiment de manière explicite Dieu qui habite notre terre. Je vais tenir entre mes mains Dieu lui-même. Ce ciel qui me paraissait inaccessible, cette majesté lointaine de Dieu, eh bien, vient dans notre monde et va transformer nos relations. Alors, mon deuxième petit point, la croix malédiction ou bénédiction. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il doit être un signe en but à la contradiction afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Il va être un signe qui va faire buter. Ça, hein? D'accord? Un signe en but à la contradiction. Pourquoi? Pour que se révèlent les pensées des cœurs. C'est le principe, hein, quand la lumière vient, à la fois elle est un obstacle, c'est-à-dire qu'elle, on ne la comprend pas, elle nous dépasse. Le Christ, Dieu fait homme, le Messie parmi nous, ça nous dépasse. C'est un mur infranchissable. Il n'y a pas de continuité entre ce qu'un juif peut penser et un chrétien. Souvent, on se dit, tiens, mais les juifs, quand même, en lisant l'Ancien Testament, ils devraient comprendre, à travers toutes les prophéties, que Jésus, c'est vraiment le Messie. Non, c'est un véritable mur. Enfin, je trouve intéressant le fait que les... Enfin, intéressant et triste à la fois que les juifs prient devant un mur. Vous voyez ? À Jérusalem. Voilà, ils sont devant un mur. Bon. Donc, Jésus est à la fois un mur. Si je n'ai pas la révélation, je bute dessus et j'avance pas, parce que je n'ai pas la lumière de l'Esprit Saint. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui révèle les pensées du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus arrive, la pensée, le cœur profond des gens se révèle. Ce n'est pas pour rien que dans l'Évangile, on nous parle du démon, tout le temps. Dès que Jésus arrive dans une synagogue, ça y est, ils sortent. « Qui es-tu? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, es-tu venu pour nous perdre ?» Dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas des démons qui sortent comme ça, de la synagogue, de je ne sais pas où. C'est propre à Jésus. Parce qu'il y a un excès de lumière. Plus la lumière est excessive, plus le mal, en fait, se révèle. Alors, comment on nous présente? On nous dit que Marie, eh bien, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Là, c'est mon petit 3, le travail de la parole de Dieu. Hein? Donc, je comprends, vous voyez, tout ce que pose Siméon, vrai Dieu, vrai homme, quelqu'un qui va faire chuter, qui va... Et puis, il y a une épée. Alors, ce qui est intéressant dans l'évangile de Luc, c'est que Marie, dans la suite de l'évangile, à chaque fois qu'elle apparaît dans l'évangile, quand on parle de la mère de Jésus, par exemple, on le lit toujours à la parole de Dieu. Je cite Luc 8, 21. Est-ce que je l'ai marqué ça? Et qui sont ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ma mère, c'est celle qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. 8:21. 11:27. Il y a une femme qui dit, heureuse es-tu, Bon. Et oui, c'est ça. Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont sucé. Et Jésus répond, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez, chapitre 8, chapitre 11, à chaque fois, on parle de la mère, on parle de la parole de Dieu. Curieusement, la parole de Dieu est présentée dans l'Épître aux Hébreux comme un glaive. Vivante, en effet, la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'un glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les pensées et les sentiments du cœur. Donc, il y a peut-être, voyez, quand Siméon dit « Toi-même, une épée te transpercera l'âme », c'est une possibilité. Bon, on sait que, enfin, on va le voir dans un deuxième temps, mais la première possibilité, quand je vois l'évangile de Luc, ben, cette épée, c'est peut-être simplement cette parole de Dieu qui vraiment fait son œuvre en Marie. Marie, c'est celle qui écoute la parole de Dieu, qui la garde. On voit bien comment cette parole de Dieu, elle ne produit pas de fruits dans les disciples. À plusieurs reprises, Jésus annonce sa passion et sa résurrection, les disciples n'entendent pas, ils ne retiennent pas, ils ne gardent pas. On dit que Marie, elle est là, constante dans la passion, elle est là au pied de la croix. Pourquoi elle est là au pied de la croix ? Parce qu'il y a une parole qui parle de la passion, mais qui parle aussi de la résurrection. Qu'elle, elle garde les choses, elle sent bien que le Messie qui va être présenté au monde n'est pas le Messie idéalisé des apôtres. Bon. Et du coup, cette parole de Dieu va provoquer en Marie une certaine croissance. Vous voyez, ça divise. Comment on grandit ? On grandit par séparation. On sépare ce qui est terrestre, ce qui est céleste. On sépare le vieil homme, l'homme nouveau. Bon. Normalement, une croissance dans notre vie chrétienne, elle se fait par l'accueil de la parole de Dieu. Après, Dieu peut servir des événements, de nos histoires qui deviennent parole de Dieu, c'est au sens large. Mais d'accueillir cette parole, d'accueillir vraiment l'évangile jusqu'au bout, eh bien, fait qu'on devient, on devient saint, tout en l'étant pour Marie au départ. Le Concile Vatican II, quand il parle de la Sainte Vierge, il dit qu'il y a une croissance chez Marie, mais on peut avoir une croissance comme il y a une croissance chez Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on est pécheur et que... Bon, vous voyez ce que je veux dire ? On peut grandir, mais grandir, ça ne veut pas dire s'améliorer. Grandir, c'est accueillir sans cesse une proposition plus grande de la part de Dieu, qui m'amène à une offrande plus grande. Alors, ça, c'est un premier sens, hein, le sens de cette parole de Dieu, hein, que Marie accueille et qui fait ce travail en elle. Le deuxième sens, c'est le passage, j'ai mis donc petit 4, de la passion de Jésus à la compassion. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Communément, on pense tout de suite, et les pères de l'Église et les théologiens voilà, disent que, en fait, quand Siméon dit cette parole, il est en train de dire à Marie la passion de Jésus va devenir pour toi une compassion. Vous voyez. Et en même temps, je comprends aussi, on nous parle de cet enfant qui va être une lumière pour éclairer les nations. Extraordinaire. Lumière pour éclairer. Donc ça veut dire que le monde entier va connaître en fait la vérité. Hein. Et en même temps, je comprends que cette lumière, elle va passer par le mystère de la croix. Donc, dès le début de l'évangile, je comprends en quoi la gloire et la croix sont liées. Alors, vous retrouvez ça à plusieurs reprises dans l'évangile. Pas dans Saint-Luc, enfin, dans Saint-Luc certainement d'ailleurs, Oui, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Ou alors par rapport aux nations, pour rester dans l'esprit des nations, quand je serai élevé de terre, mystère de la croix, j'attirerai à moi tous les hommes, mystère de la gloire des nations qui viennent vers Jésus. Donc ça veut dire que à ce moment-là, en quelque sorte, les deux missions de Marie sont comme de Marie et de Jésus. Les deux missions, chacun sa mission, eh bien, on a l'impression qu'elles sont nouées. Hein? Voilà. Hein? Marie, en quelque sorte, à la présentation, se sépare de son fils, parce que c'est le sens de la présentation, hein? C'est l'offrande. On offre le premier-né, on dit qu'il appartient à Dieu. Et donc, Marie pourrait implicitement penser que ça y est, en quelque sorte, son ministère est terminé. Bien sûr qu'elle va éduquer l'enfant, mais il ne lui appartient plus. Et puis, voilà, elle est mise au monde et c'est fait. Et là, surprise, eh bien, elle comprend que sa mission, loin d'être terminée, en fait, commence. Enfin, elle va le comprendre au fur et à mesure, hein. Je ne sais pas trop ce qu'elle comprend là, mais de manière, elle rentre dans un pèlerinage de foi. Enfin bon, elle comprend qu'elle a un rôle à jouer. Voilà, elle comprend qu'elle va participer. Elle va participer à cette lumière pour les nations. Donc elle comprend de même que le Fils ne s'appartient pas. Il n'appartient plus à Marie par cette offrande, de même la mère ne s'appartient plus. Et du coup, ça ouvre, là il faudrait faire une grande digression que je ne vais pas faire là, mais ça ouvre pour chaque croyant, pour chacun d'entre nous, la possibilité de participer au mystère de la croix et de la rédemption. Et dès le début, dans l'Évangile, eh bien, on a ce que dira saint Paul beaucoup plus tard en Colossiens 1:24. J'achève en mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Bon, il y a plusieurs traductions d'ailleurs. Donc là, il faut vraiment relire le texte de Jean-Paul II sur la souffrance, hein, le sens salvifique de la souffrance, salvifique de Loris. Très beau texte, très vraiment très très beau texte, qui n'est pas très compliqué et qui est court. Voilà. Donc c'est ça, par exemple, que nous allons proposer d'ailleurs dans. Enfin, ça y est, j'ai mis une. Vous savez, on a parlé du monastère invisible. Bon. Donc, le monastère invisible, donc j'ai mis au point une petite liturgie pour que des personnes puissent, en fait, quand elles sont malades chez elles, voilà, bon, elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent pas venir à la messe, on leur apporte la communion, mais qu'elles puissent entrer dans un mystère d'offrande. Mais de manière juste, voilà, compris comme une vocation, un peu comme Marie, et pas, enfin voilà, compris comme une vocation en fait. Oui, point. Voilà. Un appel, voilà. C'est un appel pour Marie. Est-ce que tu veux bien coopérer? Alors on peut prendre le texte numéro 1 sur vos feuilles. Et ce qu'elle apprend par l'intermédiaire de Siméon lui permet une fois de plus de participer plus étroitement au destin du Fils. Connaissant la mission du Fils, la mère est immunisée contre toute emprise. Contre toute surprise, pardon. C'est précisément à la chute, résurrection et contradiction qu'elle reconnaîtra que le Fils est au centre de sa mission. Ainsi, instruite de ces choses, elle doit garder par avance dans son cœur la mission de son enfant, comme une mère pour son fils. Cette connaissance la fait souffrir d'avance et elle prépare ainsi à la souffrance du fils une sorte de passage par lequel il pourra pénétrer dans sa passion. Elle-même retrouve et reconnaît à présent l'unité des deux missions. Ça redit ce que je viens de dire. Voilà, mais en des mots plus... Enfin, c'est plus littéraire. Voilà. C'est un très beau livre sur la Vierge Marie. Moi, je trouve que c'est le plus beau livre qui existe. Donc, La Servante du Seigneur. Voilà. Et du coup, mon petit B, y a aussi, du coup, une certaine passion pour Joseph. Joseph entend que ses deux trésors les plus précieux vivront la plénitude du don d'eux-mêmes dans un rejet et une souffrance dont il porte aussitôt le poids dans sa compassion. Hein? Offrir le fils était une chose, mais apparemment, il faut offrir l'épouse. Voilà. En fait, le rôle de Joseph, c'est vraiment de permettre à la Sainte Famille, enfin, que chacun aille au bout du don de lui-même. Et pour lui, eh bien, aller au don de lui-même, au bout du don de lui-même, c'est permettre à Marie et Jésus de vivre ce qu'ils ont à vivre. Voilà, on pourrait faire là pareil une petite digression sur l'Eucharistie, mais je l'ai mis, petit 5, vive ce don par l'Eucharistie. L'Eucharistie, symbolise et matérialise ce don de nous-mêmes. Le but, c'est par lui, avec lui et en lui, avec lui. Que nous offrions au Père. En fait, l'Eucharistie est une école d'offrande. Donc, je vous renvoie au cours sur la messe qui a été donné l'année dernière, qui est disponible sur Internet. Et donc, vous avez tout le passage sur l'offertoire. À plusieurs reprises, on aborde ce thème-là. Voilà, le but nous-mêmes, c'est que nous nous offrions pour que, comme dit saint Paul, Romains 12, offrez vos personnes en hostie vivante, c'est là le culte spirituel. Ça veut dire quoi s'offrir? C'est mon petit 6. Ça veut dire, passer d'une vie idéalisée à une vie reçue. Voyez, Marie ne se construit pas un certain idéal de vie un peu irréel. Elle n'interpose pas entre Jésus et elle un certain nombre de fantasmes, de désirs qui viendraient du dehors. Non, elle accueille une parole qui va modeler sa vie. Donc Marie, elle n'est pas dans un idéal. On a tous, moi le premier, on idéalise, on imagine, tiens, moi, être prêtre, ça veut dire ça, ça, ça. Puis au bout de 2 ans, 3 ans, vous dites, en fait, c'est pas ça. Mais j'avais rêvé d'une certaine manière, bon, ma vie. Bon, je réajuste. parce que, en fait, on rêve souvent en voulant nous éloigner du mystère de la croix. Ce qui est bien, en fait. Voilà. Parce qu'on a une certaine image de la fécondité, on dit tiens, la fécondité elle va passer par ça. Et puis souvent, le Seigneur nous ramène au mystère de la croix et une fécondité plus grande, moins humaine, plus divine, plus reçue. Voilà, et c'est ça Marie, hein, je l'avais déjà dit, elle est sans cesse éduquée par son fils, par les événements, à Cana, vous voyez, son cœur s'ouvre encore. Enfin voilà, vous prenez chaque événement en fait, entre Jésus et Marie, il y a cinq, six événements explicites. En fait, à chaque fois, il y a une incompréhension entre Marie et Jésus. Et cette incompréhension, elle est que Jésus éduque sa mère et que du coup, Marie, enfin, Marie, oui, n'entre pas dans un idéal, mais reçoit sa vocation sans cesse du Fils, comme elle la reçoit de Siméon à l'instant. Alors ensuite, on a cette vie cachée à Nazareth. Je lis verset 39. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, je vous renvoie un texte que je ne vous ai pas mis, mais que vous retrouverez sur Internet, de Paul VI. Vous tapez Paul VI, je vérifie, il est sur Internet, qui s'appelle. En fait, c'est quand il est venu à Nazareth, en 60 quelque chose, 7, je crois. Et il fait toute une méditation sur la vie à Nazareth, le silence de Marie, de la Sainte Famille à Nazareth. Un peu, c'est une sorte d'éloge de la vie ordinaire. Donc, en fait, il y a énormément de promesses autour de cet enfant. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, etc. Et, en fait, Marie va rentrer dans un grand silence qui va durer 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup. Hein. Faut quand même, les gens, ils mouraient pas à 90 ans hein, à l'époque. Donc 30 ans, pourquoi tant de temps de préparation pour 3 ans de ministère? Donc il y a une vraie parole de Dieu pour nous, un vrai mystère. Si je m'adressais à des gens très très jeunes, ben, je leur dirais qu'il faut vraiment qu'ils réfléchissent à ça. Parmi nous, il y en a certains qui ont une certaine sagesse. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire de profiter du temps pour préparer des grands choix. Mais on a souvent de grands désirs, de grandes soifs, de grandes attentes. On a l'impression que rien ne se passe. Et en fait, quand rien ne se passe, parfois tout se passe. C'est-à-dire que en fait, c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui fait mûrir les choses. Et c'est Dieu qui nous dit dans cet humble quotidien, c'est là que je te veux pour une véritable sanctification. Moi, je peux le dire pour une communauté, mais je ferai le lien aussi avec une paroisse. Hein. Voilà, les sessions de parelmonial l'été, par exemple. Bon, ben vous pouvez rêver, je sais pas, de faire des grands trucs. Et puis, ben on vous dit ce qu'on aimerait bien, en fait, on a besoin de gens pour accueillir sur le parking. Voilà. Alors, bon, vous voyez comment je prends pour moi cette humble tâche d'être accueillant sur le parking? Alors que j'avais rêvé de grandes missions au bout du monde. Bon. Ben voilà. Il faut être à la cuisine pour éplucher les légumes. Il faut. Bon. Et dans une paroisse, c'est pareil. Les gens, ils veulent bien faire des super trucs. Hein, faire de l'écoute, tout ça. Alors, des choses simples, le ménage, des trucs comme ça, alors qu'ils ont la santé. Hein. Alors ça, non. Bon, on va en reparler tout à l'heure quand on va reparler du pouvoir de la fécondité, du succès. Bon. Voilà. Il n'y a pas de jugement, hein. Je ne vise pas des personnes en particulier. En tout cas, il me semble que cette vie cachée va préparer au mystère de la croix. Hein? Parce que j'ai été fidèle dans cette vie cachée, dans cette monotonie du quotidien, dans ces petits oui cachés. Au départ, il y a un grand oui solennel de Marie, une éruption, une théophanie. Et il va falloir passer de ce grand oui solennel, qui un peu tombe de soi, une sorte d'évidence qu'il faut tout dire oui à Dieu, à ces petits oui cachés. Continue toujours un petit point. En fait, j'en ai parlé, mais je vais revenir là-dessus quand même. 30 ans de vie cachée et 3 ans à Nazareth. 3 ans de passion, je veux dire, de ministère public. 30 et 3. C'est peut-être vraiment pour aussi modifier notre rapport au temps. En fait, le démon ne supporte pas le temps. C'est un pur esprit, il n'aime pas. Vous avez ça dans l'évangile quand Jésus entre dans la synagogue, au chapitre 1 de Saint Marc, et qu'est-ce que fait le démon? Il dit Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Bon, voilà. Donc il révèle tout de suite qui est Jésus. Et Jésus n'a pas envie qu'on dise qui il est. Ensuite, il va faire plusieurs miracles. Et à chaque fois, il va dire, écoute, ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre. La purification au chapitre 1 ou 2 de Saint Marc. Quelqu'un qui est guéri, curieusement, il lui dit, n'en parle pas. Très étonnant. Et tous les miracles avant le chapitre 8, en fait, sont cachés. Tous les miracles. Ce n'est pas officiel. Quand il guérit quelqu'un dans une maison, il va demander aux gens de sortir de la maison. Donc on a vraiment une formation pour les disciples, une formation qui est cachée, ce qu'on appelle le secret messianique. Voilà, souvent on a cette expression. Et je ne veux pas être révélé à moitié. Je veux que les gens comprennent que je suis un messie puissant, mais crucifié. Et donc quand il y aura la totalité du mystère, quand j'aurai parlé de la croix, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez en parler ouvertement. C'est pour ça qu'au chapitre 8 de Saint Marc, verset 31, on nous dit, il commença à leur enseigner qu'ils devaient souffrir, ressusciter, etc. Et il ne parlait plus en parabole. Mais c'est ouvertement qu'il disait ces choses-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait le démon? Le démon, vous voyez, il précipite. Hein? Pour faire capoter un truc, on va précipiter. Alors vous avez des gens, vous recevez un mail et tout de suite vous répondez. Ah, vraiment, il m'a envoyé ce mail-là, je vais lui répondre et je vais me débarrasser de ça, il faut que ce soit carré. Hein? Alors, très content parce que tu as envoyé ton mail sous le coup de la colère. Donc le démon a réussi. Tu n'as pas pris le temps de faire reposer ta colère pour avoir une parole juste. Quand on fait une remarque, il faut toujours se demander, une remarque un peu, il faut redresser l'autre parce que je ne sais pas quoi, il me blesse. Est-ce que c'est le bon média et est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le bon média, écoute, il t'a envoyé un mail un peu machin truc, est-ce qu'il faut que tu lui répondes par mail? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut que tu lui parles en face. Parce que tu sais bien qu'un mail, entre ce qu'on écrit, ce que l'autre comprend, il n'y a pas le ton, il n'y a pas tout ça. Alors, des fois, on met le ton, alors comme on met le ton, on met des petits smiles, là, des machins, là. Petit bonhomme, bon. C'est complexe, hein, pour que le ton soit, voilà. Est-ce que c'est le bon média? Est-ce que c'est le bon support? Demander pardon à quelqu'un, faut rencontrer la personne? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut simplement écrire un mot. C'est mieux, il y a une distance. Voyez? Bon, peut-être qu'il faut rien écrire, il faut envoyer des fleurs, c'est tout, je ne sais pas. Et est-ce que c'est le bon moment? Et c'est ça, vous voyez, la vie cachée à Nazareth, c'est comprendre que les choses ont besoin de temps pour éclore. Alors, on passe maintenant au recouvrement de Jésus au temple. Donc, je vais lire. Donc, grand 3. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin. Puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Il advint au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Il leur dit: Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Alors, les parents font un pèlerinage, comme chaque année, comme c'est la coutume. Le pèlerinage, c'est tout simplement, hein, le sens du pèlerinage, c'est le sens que nous sommes en marche. Il faut prendre littéralement la chose. Pourquoi on fait un pèlerinage? Parce qu'on va mimer physiquement, pendant un temps limité, ce qu'est notre vie. Notre vie est un pèlerinage. C'est pas pour rien dans l'évangile de Luc, l'évangile commence au temple et finit au temple. Au dernier chapitre de Saint Luc. Le but, c'est ça en fait. Le but, c'est d'entrer dans le Saint des Saints, d'entrer en communion avec Dieu, d'entrer dans la maison du Père. C'est important. La traduction, c'est: Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon père, dans la maison du père? Souvent, on peut traduire ça par aux affaires de mon père. Mais aux affaires de mon père, c'est pas très juste. La Bible de Jérusalem traduit bien. Il faut entendre dans la maison du père, un petit peu comme dans Saint Jean, au chapitre 1, Maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Venez, voyez. C'est-à-dire, mais c'est quoi ton rapport à Dieu? Hein? En fait, Jésus, dans cet épisode-là, vient montrer sa véritable identité. Il est vrai Dieu, mais il est vrai homme. C'est mon petit a. Je dois être dans la maison du Père. C'est ça ma véritable maison. Mon vrai Père, c'est le Père du ciel. Comme Jésus le reprend au chapitre 13, verset 3 de Saint Jean, Jean 13, 3, il était venu de Dieu et il s'en allait vers Dieu. Il faut que je m'en aille vers mon Père. Je suis venu du Père et je dois retourner vers le Père. Donc là encore, en fait, vous voyez, avec Marie à la présentation, elle comprend que sa mission et la mission de Jésus va faire une seule mission. Et là, il y a une conscience que la paternité humaine et la paternité divine, eh bien, doivent se croiser, se lier, se mêler. Et on passe des deux cœurs à la question des deux paternités. Je dois, pense Joseph, être père, je reste père, mais en fait les choses m'échappent et l'harmonie, la croissance de l'enfant passe aujourd'hui par un saut qui me dépasse. Ça m'échappe. C'est pas harmonieux en fait. L'enfant, tout d'un coup, il nous échappe, il part, il prévient pas. Et je ne suis plus dans la maîtrise. On était chargé d'éduquer cet enfant, de le protéger, et cet enfant nous échappe. Mais oui, mais parce qu'il vous échappe, parce qu'il est vrai Dieu. Et donc, il faut que vous compreniez, à travers cet épisode, qu'il n'est pas simplement homme, tout simplement. Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Ils ne comprennent pas. Ils vont rentrer dans un chemin de foi. Ils vont être comme nous tous. Nous ne comprenons pas tout. La foi, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas raisonnable. La foi, c'est tout à fait raisonnable, tout à fait cohérent. Voilà, le mystère de la Trinité, tout ça, c'est théologiquement, c'est assez, enfin, c'est cohérent, mais ce n'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible dans le sens que plus j'entre dans la connaissance du mystère, plus je suis dépassé, plus il m'échappe, moins c'est une idole, plus j'entre dans la nuit. Paternité divine, paternité humaine, détachement des liens humains, c'est mon petit B. Voilà, il y a quelque chose qui échappe humainement. Et dans ce détachement, en fait, on arrive à concilier, c'est ça qui est très beau chez Jésus, à la fois une grande liberté et une obéissance. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Une fois donc les jours écoulés, alors qu'ils sont retournés, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Bon. Donc il est très libre, il part, et en même temps, après on nous dira en fait qu'il était soumis. Verset 51, il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Oui, Jésus est à la fois très libre de partir et très soumis à ses parents. C'est ça la vraie liberté. La liberté, c'est cette soumission à tout, enfin à tout, à ce à quoi on doit être soumis. Mais cette soumission, quand elle est juste, n'empêche pas une profonde liberté. Donc, Jésus montre que les deux peuvent être liés. Et du coup, en quelque sorte, Joseph, hein, c'est mon petit 2, la place de Joseph, entre dans la véritable paternité. Hein? Vous avez cette parole, vous savez, n'appelez personne sur la terre du nom de Père. Matthieu 23. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que Vos enfants ont appelé, vous avez appelé vos parents du nom de père, papa. Bon. Donc, c'est à ce moment-là, si on avait cette phrase-là, Matthieu 23, personne pourrait appeler sur la terre quelqu'un de père. Donc, c'est pas ça vraiment le sens. Le sens, c'est plutôt n'arrêtez pas à vous la paternité. Attention, vous n'êtes pas père au sens que le véritable père, c'est le Père du ciel. Donc vous devez révéler cette paternité de Dieu. Un véritable père, c'est quelqu'un qui révèle la paternité du Père du ciel. Hein? Plus je suis père, plus je révèle le Père du ciel. Voilà, c'est pour ça que la Sainte Famille est un modèle de famille. On dit, ouais, la Sainte Famille, ils n'ont pas 8 enfants, je sais pas quoi, ils font pas l'amour et tout ça. Mais parce que en fait, ils sont vraiment père et vraiment mère. Alors, Marie, elle est vraiment mère, parce que Jésus, il a tous les traits de sa mère totalement. Donc, elle est plus mère que chacune des mamans de la terre, puisqu'elle est la seule, voilà, à donner un corps à Jésus. Et Joseph, il est plus père que tous les pères de la terre, parce que il est dans sa véritable fonction, qui est de révéler le Père du ciel. Que dit la petite Thérèse à sa façon quand il dit « Mon père était plus digne du ciel que de la terre. » Voilà. Alors du coup, ça me fait faire une petite digression. Sur, je ne l'ai pas noté là, mais voilà, sur la question de la fécondité du succès du pouvoir. En fait, j'aime bien cette parole. Alors, ouais, enfin, pour terminer sur le Père, je m'excuse. Ayant clairement indiqué sa référence première, le Père du ciel, il peut être soumis à ses parents en toute vérité. Qu'est-ce qui dit ça? C'est Simone Pacaud. Je crois. Parce que Jésus a explicitement indiqué sa référence première. Il est soumis à ses propres parents. Ses parents, ça y est, vous voyez, ils se situent bien. Ok. Là, il y a quelque chose qui nous dépasse et on va protéger ce mystère entre le Fils et le Père du ciel. Voilà, on ne va pas mettre d'entrave. Quand Jésus partira au désert, ils vont pas dire reste avec nous là, oh là là, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est pas bien, vous voyez. Il y a une grande liberté parce que il y a d'abord une parole de Jésus qui replace les rapports justement. Alors, est-ce que je veux être père et mère? Voilà. Ou est-ce que je ne veux pas être père, c'est-à-dire que je veux être simplement celui qui arrête à moi l'amour ou l'amitié des gens? On s'aperçoit que être père, on pourrait dire que c'est être un peu pasteur. Voilà. Père, c'est être pasteur un peu. Et parfois dans notre vie, on va être plutôt leader. Leader. Donc leader et pasteur, c'est pas pareil. Bon, il faut des leaders. Les leaders, c'est des gens qui font des tas de trucs et tout, super. Et ils vont demander à ce qu'il y ait plein de gens autour d'eux pour que leur projet marche. Ce qui est visé dans le leader, souvent, c'est le projet. Et puis j'utilise les gens pour mon projet. Le pasteur, c'est différent. Bon, il a un projet, mais ce qui est visé d'abord, c'est le bien des personnes. D'accord? Voilà. Parce que le projet en lui-même, ce n'est pas tellement le but. Moi, mon but, c'est qu'à travers ce projet, les gens y grandissent. J'ai un pasteur. Alors, du coup. Être pasteur, c'est un peu le mieux. Alors, si on est pasteur et leader, tant mieux. Enfin, bon, on peut être tout, non? Mais du coup, ça suppose le véritable pasteur qui soit passé par trois étapes, qu'il ait franchi les étapes, qui sont l'étape du succès, l'étape du pouvoir et l'étape de la fécondité. Quand on est jeune, hein, on veut du succès. Donc c'est la petite fille, le petit garçon qui joue du piano et qui dit à la fin du repas, alors j'ai bien joué, maman, papa, puis il y a tous les invités qui sont là. Mais oui, ma chérie, tu as bien joué. Alors, et puis on applaudit. Alors. Et vous voulez que je vous rejoue une autre? Oui, si tu veux, rejoue une autre. Voilà, alors rejoue une autre. Voilà. Bon, alors, voilà. Donc, c'est le succès. Un succès alors, chez l'ado, c'est différent. Il sort le portable, il le met sur la table. Vous dites pourquoi il sort le portable? Je ne sais pas très bien. Mais apparemment, en fait, il voudrait un peu être aimé. Comme il manque un peu d'assurance en lui-même, il sort son petit portable. Comme c'est un super portable, ça veut dire j'existe, je compte, vous pouvez m'aimer parce que je suis riche. Bon, et les adultes, c'est différent. C'est leur maison. Ils adorent qu'on visite leur maison, tout ça. Bon. Enfin, chacun son truc. Bon. Le succès. Donc j'ai envie. Moi j'avais une. Enfin voilà. Je pense à quelqu'un, elle chante le psaume. Et à la fin, les premières fois, elle chantait le psaume. Alors ça va, j'ai bien chanté, ça a été. Oui, c'est super. Bon. Voilà. Alors le problème du succès, c'est que bon, c'est assez adolescent, mais ça peut durer dans le temps. Hein? Et des personnes qui, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, y compris chez les prêtres, en fait, ne vivent que par le succès. J'ai besoin, voilà. Enfin, j'ai besoin d'être aimé, quoi, tout simplement. Hein? Voilà. Bon. Donc, je fais pas tellement des choses pour que les gens se convertissent et qu'ils avancent. Je fais des choses pour que, en fait, voilà, que je sois aimé. Alors, ensuite, parfois le succès disparaît parce qu'on vieillit. On a des rides, on est moins joli, tout ça. Bon, mais c'est pas très grave, hein, on chante un peu moins bien, mais oui, je peux prendre d'autres formes de succès? Quelle autre forme de succès? Ah non, mais non, on va voir, oui, non, on va voir. Alors attendez jusqu'au bout et puis je vous ferai réagir, hein. Parce que ensuite, alors vous voyez, je suis moins brillant. Hein? Mais ce n'est pas très grave, j'ai du pouvoir. Alors ça, c'est bien. C'est sûr que je ne suis plus le gars qui prend le micro tout le temps, voilà, parce qu'on ne me demande plus, mais par contre, je suis responsable d'eux. Alors, vous comprenez, j'ai du pouvoir, alors ça passe de dans une paroisse, vous voyez, la personne qui dit, écoutez, moi j'ai les clés, donc voilà, c'est pas pour rien que j'ai les clés, de la sacristie, de je sais pas quoi. Donc voilà, donc je tiens encore ça. Donc je ne lâcherai pas parce que j'ai les clés. Ou je suis, je ne sais pas quoi, responsable d'un truc au diocèse. Et donc je vous demande de me mettre en copie, quoi. Les choses doivent se passer par moi. Et alors, en fait, on s'aperçoit que le truc, en fait, ça freine et tout ça. Ce n'est pas grave. Il faut passer par la personne parce que la personne, ça lui donne un certain pouvoir. Elle n'existe pas tellement par ses œuvres parce que les œuvres, elle n'a plus beaucoup, elle n'a pas beaucoup de succès, mais elle existe par un certain pouvoir. Je suis responsable d'eux, y compris chez les prêtres. Oui. Le prêtre qui a du mal à déléguer, par exemple, c'est dans ses gènes, parce qu'il aime bien avoir un certain pouvoir qui peuvent être liés à des blessures aussi, c'est très, voilà. Et puis alors, vous voyez, par exemple, la personne aussi peut faire des choses pour justifier sa fonction aussi. Ça, vous avez ça. Alors ça, c'est plus dans les diocèses, au sens large. Vous avez des responsables de la famille, de ceci, de cela. Et puis alors, ils vous pondent une activité. Mais vous dites, attendez, ils me proposent cette activité-là. Moi, dans ma paroisse, je la fais aussi. Puis les paroisses peuvent faire l'activité. Alors, il faut faire l'activité de la paroisse, plus l'activité du diocèse, plus ceci, plus cela. Et alors, en fait, mais oui, mais si la personne responsable ne fait pas d'activité, bah, sa fonction, elle n'est pas tellement justifiée. Comprenez? Je fais des choses pour justifier. Bon. Alors, pour un prêtre, par exemple, je sais pas moi, un prêtre qui a peur d'aller voir les gens, bah, il a peur d'aller voir les gens, du coup. Non, non, qu'est-ce que je voulais? Un exemple, mais c'est pas, ça a complètement inventé, donc ça va tomber à côté. Donc, par exemple, il vient faire des conférences pour justifier sa fonction, pour justifier qu'il fait des choses. Vous voyez? Je fais des choses, et je fais des conférences, etc. Mais en fait, ça justifie, mais ce n'est pas forcément ton appel. Ton appel, c'est d'aller voir des gens, tout ça. Bon. Vous voyez, toutes les activités pour justifier l'existence de quelque chose. Alors après, l'étape, alors là, donc on peut rester avec le pouvoir un certain temps, vous avez des gens qui n'arrivent pas à quitter, évidemment, hein, tous les gens qui ont un truc, qui n'arrivent pas à quitter. Alors vous allez me dire, alors quand je fais ce genre de conférence, les gens disent, ah mais si vous voulez, est-ce que vous ne me visiez pas dans la conférence, etc. Toujours ça. Non, 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 je vise personne. Mais si vous voulez, moi je suis prêt à quitter. Hein, si vous voulez, je suis prêt à quitter. Être prêt à quitter, c'est être prêt à trouver quelqu'un qui va me remplacer. Parce que c'est facile, les gens ils disent je veux bien quitter. Oui, mais d'accord, tout le monde veut bien quitter, moi je veux bien quitter aussi, enfin tout le monde. Mais c'est qui que tu mets à la place? Et du coup, je vais rentrer, donc la sagesse, dans une certaine fécondité. C'est la troisième étape. En fait, je vais revenir sur quitter la fonction, vous allez comprendre. Je ne cherche pas le succès, je ne cherche pas le pouvoir, je cherche la fécondité, c'est-à-dire que je cherche l'influence. Je cherche à avoir de l'influence. L'influence, c'est un peu péjoratif. Or, c'est très bon. Et Jésus a eu beaucoup d'influence. C'est-à-dire, moi, ce qui est important, ce n'est pas tellement que je sois nommé à la fin du mail, qu'on dise j'ai tout organisé. Ce n'est pas tellement que j'ai du succès et qu'on m'applaudisse. Voilà. Ce n'est pas tellement ni le succès ni le pouvoir. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une fécondité. Ce que je veux, c'est que les gens grandissent. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, si je dois être inconnu et qu'on ne sache pas que je suis à l'origine du truc, ce n'est pas très grave. Alors, je prends un exemple, par exemple. Un exemple. Les saints. Alors, vous prenez, alors, ce n'est pas un saint, lui, mais c'est Pierre Goursat. C'est pas très grave. Pierre Goursat, fondateur de l'Emmanuel. Pierre Goursat, il fonde une communauté. Alors, il fonde rien du tout. En fait, il va un week-end, et puis à ce week-end-là, tout le monde reçoit un coup du Saint-Esprit, et ils disent, il faut qu'on continue à prier ensemble. Voilà. Parce qu'on a vécu une expérience forte. Il continue, et puis ça grandit, ça grandit, ça grandit. Bon, ça devient une communauté. Bon. Alors, du coup, heureusement, dans ce petit groupe de prière, il y a une certaine Martine Lafitte, un certain nombre de gens qui sont très jeunes et qui donc vont pouvoir porter la communauté et la faire grandir et tout ça. Et du coup, Pierre Goursat a tout de suite compris que son rôle n'était pas d'être celui qui avait le pouvoir. Ce n'était pas un homme de succès, ce n'est pas quelqu'un qui savait bien parler. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui écrivait beaucoup, il a très peu écrit, il a très peu parlé, mais il a compris très rapidement que de par sa sagesse, eh bien, il devait avoir de l'influence. Donc il allait avoir une influence sur les personnes saintes, une sainte influence, pour qu'il y ait une réelle fécondité. Ce que je veux, c'est le bien des personnes. Ce qui m'intéresse pas, c'est d'être au premier rang dans le. Ça m'intéresse pas plus que ça d'être au premier rang. Et je sais que si je suis au premier rang, j'empêche quelqu'un d'autre de l'être. Donc il faut absolument que je me débrouille pour, à chaque fois comme Jean-Baptiste, mourir pour que l'autre soit au premier rang, pour que j'aie une fécondité, de l'influence, mais ni du pouvoir ni du succès. Alors ce qui fait que, oui, le truc quand même assez impressionnant, on a prévenu l'évêque d'Autun de la mort de Pierre Goursat. On dit à l'évêque d'Autun, vous savez, là, notre fondateur est décédé, Pierre Goursat. Ah, votre fondateur. Mais en fait, votre fondateur, je le connais pas, en fait. C'était qui votre fondateur? Ben, notre fondateur, c'est vous avez mangé avec lui, c'était celui qui était autour de la table, là, avec un son béret, là, vous savez plus, son manteau un peu en je sais pas quoi, là. Ah, c'était lui. J'avais jamais imaginé que c'était lui. Voilà. Une fois, une session de parrainmonial, Pierre Goursat était au fond là, de la session. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, ce qui est beau dans votre communauté, c'est que vous invitez des pauvres. Et en parlant des pauvres, c'était Pierre Goursat. Voilà. Parce que, vous voyez, au niveau apparence, vestimentaire et tout ça, c'est pas quelqu'un qui cherchait, voilà, plus que ça. Donc voilà. Donc vous voyez, quelqu'un qui quitte une mission, en fait, quelqu'un qui prend une mission, normalement, normalement, on va dire un schéma un peu, comment dire, un peu hypothétique, voilà. Ça ne veut pas dire que. Quelqu'un qui prend une mission très rapidement, eh bien, il pense à son successeur. S'il ne pense pas à son successeur, c'est soit de l'orgueil, soit de l'inconscience. Et ça veut dire qu'il va former son successeur. Voilà. Alors, parfois le Seigneur nous appelle à avoir du succès, du pouvoir et de la fécondité. Les trois en même temps. Regardez le pape François. Il a du succès, il a du pouvoir, il a de la fécondité. Donc il ne faut pas non plus, vous voyez, ce n'est pas trois étapes qu'on passe, etc. Mais c'est des points de vigilance. Parfois on a, donc comme je dis, on a plutôt du pouvoir et pas de succès, mais on peut avoir du pouvoir et de la fécondité aussi, et pas de succès. Bon, enfin, il y a un peu tous les profils. Mais ce qui est important, c'est, en fait, l'important, c'est que la fécondité soit gardée tout le temps. Je pense à une Jeanne Jugand, je terminerai par cet exemple-là. Jeanne Jugand, c'est une femme. Qui accueille des pauvres chez elles, des personnes âgées. Bon, il y en a 2, 3, 4, 5, 10, elles fondent une communauté. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait aider par un prêtre. Et le prêtre, d'après une petite sœur des pauvres que j'ai interrogée, là-haut, la prêtre Dina, là, elle disait, en fait, ce prêtre, il avait des petits problèmes psychologiques apparemment. C'est pas que de l'orgueil, du péché. Bon. Bref, ce prêtre s'est débrouillé pour prendre le pouvoir des petites sœurs des pauvres. Donc il a tout pris. Au point de rayer même un peu, vous savez, comme pour la petite Thérèse, on avait rayé dans le manuscrit des tas de mots. Enfin, bref, pour que ça soit son œuvre. Ouais. Et Jeanne Jugand s'est retrouvée à s'occuper des petites sœurs au niveau des travaux manuels, des ateliers. Et en fait, sa fonction auprès des petites sœurs dans cet atelier de travaux manuels lui a permis de transmettre, eh bien, tout l'esprit des petites sœurs des pauvres. Et donc, toutes les petites sœurs des pauvres ont été formées par la fondatrice en direct. Si elle avait été à la tête du truc en gardant le pouvoir, il est possible, bah, qu'elle ait eu à gérer de l'immobilier, à parler avec des évêques et tout ça, tout le bazar. Mais elle n'aurait peut-être pas donné l'esprit des petites sœurs des pauvres. Oh, voilà. Donc d'un mal, eh bien, il y a eu un bien. Mais si, vous voyez, elle n'était pas rentrée dans cet esprit de fécondité, dans un esprit de pouvoir, à ce moment-là, bah, tout aurait pété, etc. Enfin, vous voyez, écoutez, attendez, c'est moi, vous rigolez, etc. Hein?
Elle lui a dit, vous m'avez pris mon œuvre, mais je vous la donne bien volontiers.
Ouais. Vous avez pris mon œuvre, mais je vous la donne bien volontiers. Ouais. Ouais. Donc c'est beau parce qu'à la fois une vérité, vous m'avez pris mon œuvre, elle est très vraie avec le gars, parce qu'elle tend une perche pour qu'il change, il change pas, mais je vous la donne. Donc peut-être quatre petites attitudes suite à succès, pouvoir, fécondité. Première attitude, veille sur ton cœur, Proverbe 4, 23. Au fond, qu'est-ce que je cherche? Comment dire, nos premières intentions sont souvent bonnes quand on prend un service. La question, c'est qu'avec le temps, ça peut se gâter. Deuxième attitude de cœur, accepter de se projeter dans le temps, encore une fois. C'est-à-dire, se projeter dans le temps, c'est, voilà, c'est dire qu'est-ce qui va permettre à long terme qu'il n'y ait pas, qu'il y ait une vraie fécondité. Se projeter dans le temps. Voilà. Se projeter dans le temps. Ben un prêtre, par exemple, s'il ne se projette pas dans le temps, il va toujours faire ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça dont les gens ont besoin? Donc, projette-toi dans le temps. Hein. C'est quoi? Bon. Ensuite, troisième petit point, voir tous les lieux où je peux passer de leader à pasteur. Hein? Moi, par exemple, enfin, je ne suis pas un exemple, mais comme ça, c'est concret, plutôt de faire des trucs irréels. J'accompagne un petit groupe de lycéennes. Au départ, il y a 4 ans, je faisais un certain nombre d'enseignements. Aujourd'hui, c'est les animatrices qui font l'enseignement, mais je leur dis, si vous voulez, je vous prépare l'enseignement. Je fais les recherches dans les livres et tout ça. Ils m'ont demandé un enseignement sur la Bible et est-ce que la Bible est historique? Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de trucs, c'est vrai, Adam et Ève, est-ce qu'ils ont vraiment existé, tout ça, leurs questions. Je sens bien que c'est des questions qui sont délicates et que elles ont pas, les animatrices n'ont pas, enfin, surtout qu'il y a une jeune qui voulait faire le topo, n'ont pas forcément tous les outils. Donc moi, je vais lire les bouquins, ensuite je leur fais un petit résumé et je leur dis, voilà, allez voir dans le livre, telle page, telle page, telle page. Je veux avoir de l'influence, mais je ne vais pas avoir le succès. Et je leur demande, surtout dans l'enseignement, dites pas, Père Paul a dit, vous faites comme si c'était le vôtre. Il y a des trucs qui ne vous parlent pas, vous vous laissez tomber. Il y a des trucs que vous trouvez par ailleurs, vous prenez, vous voyez? Bon. Donc, est-ce que j'accepte dans tous les lieux où je suis de passer de leader à pasteur? C'est-à-dire de passer du pouvoir à l'influence. Et donc, quatrième point, accepter de faire autrement. Hein, pour avoir de la fécondité, il faut penser à faire autrement. Donc là, je vous renvoie à la joie de l'Évangile, où tout le texte eh bien, est sur comment faire autrement dans l'Église. Voilà, il faut que je termine parce qu'il est vraiment l'heure. Petit C, vivre une scène de reconnaissance sur le modèle des disciples d'Emmaüs. Vous avez remarqué que cette scène, on se dit, mais pourquoi elle est là, ce recouvrement de Jésus au temple? Bon, est-ce que c'était pour nous dire un petit truc sur la vie entre 3 mois et 30 ans, il fallait faire un événement, et voilà, pas du tout. C'est que cet événement de Jésus retrouvé au temple, eh bien, il est exactement sur le modèle d'Emmaüs. Et c'est quoi le modèle d'Emmaüs? En fait, Emmaüs, c'est une scène de reconnaissance. On ne reconnaît pas Jésus qui marche en chemin. Hein? Il y avait 2 hommes qui marchaient, etc. Tout le monde a Emmaüs en tête, ça va? Bon. On ne reconnaît pas Jésus. Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain. Là, c'est exactement la même chose. Hein? Regardez les phrases. Et là, Jésus se fait reconnaître en tant que vrai Dieu. Il faut que vous compreniez que moi, je dois être dans la maison de mon Père. Regardez les mots. Pourquoi donc me cherchiez-vous? 2,49. Et je mets en parallèle avec 24,5. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pareil. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? 2,49. Et dans Saint Jean, je monte vers mon Père et votre Père. À la fin, on nous dit quoi? Au moment de la Pâque, ensuite ils s'en retournèrent à Jérusalem. Hein? Ils entendent, il y a la fraction du pain, ils repartent à Jérusalem, ils font le chemin inverse. Là, c'est exactement la même chose. Les parents s'en retournent à Jérusalem pour retrouver l'enfant dans le temple. Voilà. Ils sont frappés d'étonnement, comme les disciples sont frappés d'étonnement au récit de la passion et de la résurrection. Donc on est, en quelque sorte, dans une scène de reconnaissance. avec des mots, d'ailleurs je reprends deux mots, le mot angoissé, nous te cherchons angoissé. Angoissé, ça veut dire tourmenté, torturé, c'est le même mot qui est mis dans la parabole du riche et de Lazare, en 16-24. Donc Marie vit en quelque sorte les affres, ça veut dire quoi les affres ? Ouais. Les affres de l'enfer. Elle est torturée, comme le riche est torturé dans la parabole. Hein ? Elle est dans ces peines de l'enfer dont, je ne sais pas, les petits voyants de Fatima ont été plongés quelques instants. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? Je dois. C'est pareil, c'est le vocabulaire de la passion et de la résurrection. Il me faut être aux affaires de mon père. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être jeté. On est vraiment dans cette thématique, comme par hasard, il y a 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on cherche. Et les 3 jours de la passion et de la résurrection, vous prenez tous les éléments. Vous avez une anticipation du mystère de la croix. En quelque sorte, Jésus, voyez, permet à Marie et Joseph de vivre par avance le mystère qu'ils vont vivre dans quelques instants, enfin dans quelques années, en étant eux-mêmes au pied de la croix. Voilà. Et on nous dit, on termine, sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. C'est vraiment la lection de Marie, hein. Mon petit C. Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Ça veut dire quoi ? Garder, conserver dans son cœur, c'est un verbe grec, sunetherai, qui veut dire mettre ensemble. Hein, on va mettre ensemble les événements. Hein, quand on fait de la lectio, on met ensemble des paroles. On les entrechoque, un petit peu comme deux silex, pour que la lumière jaillisse. Donc Marie, voilà, elle met ensemble tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend. Elle secoue les choses. Et comme par hasard, cette phrase, Marie gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur, eh bien, se retrouve dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises et à chaque fois lors d'un événement difficile. Ce qui veut dire qu'elle médite ces événements qui sont des événements difficiles. Je renvoie, alors je vous donne Genèse 37, 11, l'histoire de Joseph. Joseph qui est emporté par ses frères et mis dans un puits. Ses frères furent jaloux de lui, mais son père gardait la chose dans sa mémoire. Voilà. Hein ? Daniel 7, 28. Moi, Daniel, je fus grandement troublé dans mes pensées, ma mine changea. Et je gardais ces choses dans mon cœur. Voilà. À chaque fois, l'expression est liée à un événement difficile. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est à la fois dans des mystères joyeux, bien sûr, mais on est chez Marie très tôt, dans des Siméon, dès le recouvrement du temple, en fait, dans des mystères quand même un petit peu douloureux. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comment c'est la croissance de Jésus ? Comment il va grandir ? Eh bien, en étant dans l'obéissance à ses parents, c'est-à-dire la meilleure façon pour être aux affaires du Père Céleste, c'est de descendre, de descendre, de descendre, eh bien, avec ses parents à Nazareth. Vous voyez, la boucle est bouclée. Je vous avais parlé de ce quotidien qui était le lieu où on était appelé à rencontrer Dieu avant les grandes œuvres dont l'ange, enfin, pour lesquelles l'ange avait annoncé. Voilà. Et bien là, on retourne encore. Hein. Après le mystère de la croix chez Siméon, on a eu le mystère de la vie cachée. Cette croix, elle est d'abord préparée dans cette vie cachée. Et de la même manière, après le mystère du recouvrement de Jésus au temple, qui anticipe la passion et la résurrection, on retourne encore à la vie cachée à Nazareth, comme si cette vie cachée permettait d'être préparée et de vivre quelque chose, eh bien, du mystère de la croix et de la résurrection. Voilà, tu veux être aux affaires du Père, hein, tu es aux affaires du Père, comment es-tu? Eh bien, en étant obéissant à tes parents, dans cette humble obéissance au quotidien. Voilà, c'est toujours le drame, il y a des gens, ils sont prêts toujours à faire des projets, aller au bout du monde, faire des grandes choses, mais ils sont incapables de balayer à la fin de la conférence. Mais ça, c'est très curieux, ils ne peuvent pas. Ils peuvent faire des grandes choses, mais pas les petites. Donc, il faut comprendre que les grandes choses se font d'abord par des petites choses. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.